Mais tout ça, c'est pour lire Lacan. C'est pas... Moi, ce que je peux vous raconter n'a aucun intérêt. J'ai rien inventé. J'apprends à lire. Faites-en autant. Tout ce que je vous dis, c'est... La seule chose que je vous dis, c'est que vous pouvez apprendre à lire parce qu'on peut apprendre à lire avec Freud et avec Lacan. Bon. On peut apprendre à lire et du coup, on peut aussi apprendre à écrire d'autres choses et écrire et parler différemment. Hein. Justement, c'est un enseignement politique pour notre époque. Donc moi, ce que je raconte n'a aucun intérêt. Moi, l'intérêt de ce que je raconte, c'est uniquement de soutenir l'intérêt que ça peut avoir pour quelques autres et que de ne pas participer de cette doxa, de cette clameur dans laquelle on vous dit « La psychanalyse, on a tout compris, Freud, très bien, on surplombe, Lacan aussi, c'est un vieux, de toute façon, lui, Freud, était médecin vieil, bon, et c'est un petit vieux médecin bourgeois, misogyne, et puis Lacan, il a fini ses livres. Bon. » Alors, voilà ce qu'on vous dit, et puis on vous dit qu'on a tout compris, parce que c'est un bizutage, la psychanalyse, et ça permet de faire du fric quand on est un dinosaure dans le milieu. Bon. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Oedipe, vous avez qu'à lire le gros enfariné là qui dit « La psychanalyse, ça marche parce que tout le monde rêve de la panacée universelle. » Génial. Et si c'était que ça, hein, moi, je vous promets, je me serais jamais intéressé. D'ailleurs, j'ai cru à un moment que c'était ça avant de connaître Lacan. Hein. Moi, mon frère qui était jeune, qui était un jeune artiste et qui lisait la science, l'introduction à la psychanalyse et le début sur le rêve, vous voyez, avec ses copains, parce qu'ils admiraient les surréalistes, Dali, Breton. Moi, je me suis dit, c'est connerie, lire des rêves. Vous voyez, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je me suis dit, c'est... Bon. Et il a fallu que je lise un peu Freud et très vite Lacan pour m'apercevoir que ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté. Bon. Et que c'était beaucoup plus intéressant qu'on le croit. Mais tous ces gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent qu'on a très bien compris que la psychanalyse, c'est un bizutage. Hein, tout le monde croit à la base assez universelle. Alors moi, le gros con de médecin, comme je suis médecin, je vais laisser tous ces gens s'engouffrer dans cette clientèle et ce clientélisme pour venir me donner des royalties. Pourquoi? Parce qu'il y a de la réaction thérapeutique négative. Freud, il a rencontré de la réaction thérapeutique négative. Hein, il le dit lui-même. C'est-à-dire des gens qui viennent, qui veulent faire une analyse, et puis ça se traduit par pas d'analyse, et même plus de transfert. Alors au moins, la situation que Lacan nous a laissée, c'est qu'il a laissé un transfert. Il y a un transfert monumental, qui est un délire, parce qu'il n'y a pas d'analyse. Et ça donne ce qu'on voit en France actuellement, et ce qu'on voit dans le monde. Parce que moi je prétends que les intellectuels français, mais pas seulement, européens, mais pas seulement, dans le monde entier, la question elle est... Comment esquiver Lacan? Comment parler et faire comme si on pouvait en dire quelque chose, mais surtout pas le lire, pas l'étudier? Vous voyez? La preuve, c'est pas la peine de donner des preuves, mais on a quand même des preuves, c'est que lisez ce qui se publie. Hein. Lacan, ça sert dans les interviews à faire journaliste. Il y en a un qui était bien comme ça, c'était Michel Field. En général, quand il voulait déstabiliser le type qu'il interviewait, il lui disait. Et Lacan, non, c'est comme ça. Ah, et Lacan. Alors l'autre disait, ah Lacan, ah, c'était très bien. Ça y est, l'affaire était bouclée. C'est et Lacan, oh Lacan, et puis hop, génuflexion. Et puis alors, vous voyez quand même, c'est-à-dire que le problème, c'est que qu'est-ce que c'est que cet apax? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, Lacan, il a créé un transfert sans analyse, c'est-à-dire un délire. Donc vous avez une psychose sociale. Il écrit, hein, Lacan, il fait comme le complot à ciel ouvert. Je suis en train de vous révéler le complot à ciel ouvert. Il écrit dans les écrits, personne n'a lu. Il a écrit que dans le sujet de la science, actuellement, il croit au Père Noël. Hein, c'est en quoi Pascal, n'est-ce pas, a participé de l'instauration d'une psychose sociale dans laquelle il nous aurait précédé. Vous voulez que je vous lise la page? C'est dans Postscriptum, question préliminaire du traitement des psychoses, hein, ça se trouve là. Je vous lis la page. C'est ici. Il y a trois critères pour qualifier Lacan qualifie la subjectivité scientifique par trois traits. Hein, un alibi, dit-il. Hein, c'est. Bon, il appelle la subjectivité scientifique, nous voulons dire celle du savant à l'œuvre dans la science qu'il partage avec l'homme de la civilisation qui la supporte. Et il qualifie cette subjectivité scientifique qui n'est pas l'esprit scientifique, hein, ne confondez pas. L'esprit scientifique, c'est Lacan en dit beaucoup de bien. C'est un terme de Bachelard. Hein. Mais il précise donc que attendez que je retrouve les trois mots qui sont importants. Il y a un délire, c'est un délire sur la liberté. Deuxièmement, un alibi, c'est une notion du réel qui est faite pour camoufler. Et une croyance dans le Père Noël, qui ne peut échapper à personne, dit-il. On se demande. Hein. Nous détournerait de le situer par une analogie légitime dans la catégorie de la psychose sociale, cette subjectivité scientifique, pour l'instauration de laquelle Pascal, si nous ne nous trompons pas, nous aurait précédé. Donc il l'a écrit. Bon, si je parle français, si Pascal a précédé, d'après ce que dit Lacan, par son instauration d'une psychose sociale, il a précédé Lacan, c'est quoi? C'est que Lacan, il participe bien de l'instauration d'une psychose sociale. Non, je pense que l'analyse de la phrase n'est pas excessivement compliquée. Hein, vous voulez que je vous le répète?
Oui.
Bon. Alors, ce qui ne peut échapper à personne, cette croyance dans le Père Noël, nous détournerait, et elle ne nous détournerait pas de le situer, cette subjectivité scientifique, par une analogie légitime dans la catégorie de la psychose sociale. Hein, pour l'instauration de laquelle Pascal, si nous ne nous trompons pas, nous aurait précédé. C'est page 576 dans les écrits. Moi, j'ai lu ça depuis 30 ans.
Mais il l'instaure, ça ne veut pas dire qu'il il en fait monstration.
Il l'instaure. Ben, excusez-moi. Lisez
il la nomme.
Ah, il la nomme.
En quelque sorte.
Oui, mais l'instauration...
Il ne la crée pas.
Ah, voilà, c'est ça la question. Comment vous entendez le verbe instaurer?
Voilà.
Moi, je dis qu'il a instauré une psychose sociale comme Pascal, parce que...
Newton instaure la gravitation. C'est-à-dire qu'il la nomme.
Oui, mais...
En plus, il la calcule.
C'est plutôt la différence entre découverte et invention. Enfin, c'est...
Oui, oui. Mais est-ce que c'est pas aussi Newton, justement, qui est justement dans l'instauration, qui serait dans l'instauration du contraire de la psychose sociale? Puisque Newton, c'est l'hypothèse non-Shingo. C'est-à-dire, c'est ce que Lacan appelle en radiophonie la charte de la structure. Moi, je tiens que la charte de la structure, c'est ce que je dis de ce que j'ai dit tout à l'heure de l'aspect fonctionnel chez Trouba-Ishtoy. Il ne s'agit pas d'une invention, il s'agit ni d'une invention ni d'une découverte, il s'agit de quelque chose qui tient des deux. Vous voyez, à cause de la répétition freudienne, le sujet, il peut trouver que quelque chose qui va trouver dans le désir de l'autre, mais qui a quelque chose à voir avec son désir. Il faut ça pour lire. Si, vous le savez bien, si vous n'avez pas une idée de ce que vous allez lire dans un livre, ou si ça ne vous accroche pas dès la première page, que connaissent bien les auteurs, vous n'allez pas lire le livre, vous tombe des mains. Pourquoi est-ce qu'il y a des critiques littéraires? Parce que quand on vous parle, et puis j'ajoute même cette notion bien, bien classique et ancienne, que une heure de conversation vaut 200 heures de lecture. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, ça ne veut pas dire qu'il suffit de jacter, d'aller au café pour discuter, il faut lire. Mais si vous avez des gens avec qui vous pouvez lire, ils vont vous mettre justement sur la piste, n'est-ce pas, de ce que vous cherchez pour que vous ayez une idée de le trouver dans ce que vous allez lire. Et c'est la condition. La première condition pour lire, c'est retrouver son désir dans le désir de l'autre. Ensuite, pour ne pas faire dire au texte, justement, comme on est en train d'en discuter là, n'est-ce pas, n'importe quoi de ce qu'on veut, hein, à propos du mot « instauration », eh bien, il est question, effectivement, de frotter votre lecture, de frotter la lecture à des bonnes méthodes. C'est-à-dire, il faut... Moi, je veux dire que lire, ensuite, c'est la même chose que de faire des calculs dans ce domaine-là. Il faut vérifier ses calculs, parce qu'on fait tous des erreurs de calcul. Mais moi, je préfère calculer à la main que de calculer avec une machine. On ne fait pas des mathématiques avec une machine. On peut faire des mathématiques avec une machine quand on veut obtenir un résultat qu'on a déjà bien calibré, hein, d'une manière stratégique, comme quelque chose qui va avoir une fonction. Vous voyez, ça, c'est même une petite machine à calculer qui va me conduire à formuler entre ces deux dessins la séparation, et entre ces deux dessins quelque chose qui aura aussi à voir avec la séparation. La séparation, Lacan nous dit, c'est ce qui modifie l'intersection. Vous voyez ? Donc ici, il y a une modification de l'intersection. L'intersection, c'est en bleu. Donc la séparation, elle se trouve ici, est là. Alors, moi, je maintiens que instaurer la psychosociale, je vous renvoie pour ça, si vous voulez, au séminaire d'un autre à l'autre, où Lacan parle de Pascal. Qu'est-ce que fait Pascal? Moi, je pense que Pascal, l'instauration qu'il a, à laquelle il participe, justement, elle a tout à fait à voir avec ce qu'on appelle le capitalisme. Lacan dit Pascal, c'est un capitaliste, parce que il prend comme prétexte pour dire ça Lacan que Pascal a fait le calcul de la tarification des omnibus à Paris. Vous connaissez ? Non, c'était les omnibus. C'était les bus, les transports collectifs de son temps. Et donc, mais Pascal, Lacan, quand même, il se donne la peine de consacrer deux séminaires. Il y a sans doute une difficulté là avec Pascal à propos de cette instauration. Parce que il commence à parler de Pascal dans l'objet de la psychanalyse. Là, il fait son topo, il fait le topo le plus dogmatique, qui est très bien, qui répète un certain nombre de choses sur Pascal, qui sont connues, qui sont nécessaires à répéter. Et il donne la bibliographie. Et c'est là qu'il cite ce livre magnifique du type qui a publié le mémorial de Pascal. C'est un élève qu'on a retrouvé cousu dans sa chemise. Bon, c'est là qu'on trouve le texte du pari. Il faut jouer, il faut parier, il faut s'engager. Et ensuite, là, Lacan, il commence à expliquer ça. Il y a un exposé de Madame Parisot, Thérèse Parisot, à propos de Gide et de c'est à propos, c'est un article de Dragonetti qui parle de Gide et de Dante. Bon, donc là, et puis tout à coup, on voit Pascal disparaître du séminaire Lacan, parce que c'est une année où il y avait encore aussi des séminaires fermés où ils discutent sans le public. Bon. Et puis vous voyez Pascal qui ne revient que dans la dernière année de l'école normale, c'est-à-dire dans d'un autre à l'autre. Et là, il reprend l'analyse du pari et il fait un truc incroyable parce qu'il fait un calcul qui lui fait passer de la règle des parties aux suites de Fibonacci pour revenir à la règle des parties. Moi, j'ai étudié ça il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai lu d'un autre à l'autre il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai renoncé à l'expliquer, mais je pourrais l'expliquer, mais il faudrait faire un écrit, il faudrait l'écrire, ça, parce que les petits tableaux de Lacan, c'est exactement la règle des parties de Pascal. Et là, il continue toute la fin de l'année, magnifique, justement, où on voit que Lacan, il est dans son affaire, mais il est dans sa hâte, parce qu'il va être viré de l'école normale. Il sait que c'est les dernières leçons qu'il va donner. Et donc, à ce moment-là, il parle de Pascal comme capitaliste, il donne une nouvelle définition de l'obsessionnel, une nouvelle définition de l'hystérie, tout ça grâce à la suite de Fibonacci. C'est là qu'il dit que l'obsessionnel, c'est le sujet qui ne se prend pas pour un maître. Il a fait même un raccord avec la dialectique du maître et de l'esclave, montrant que le maître, il court toujours après l'esclave. Donc, à ce moment-là, l'obsessionnel, c'est celui qui ne veut pas se prendre pour un maître. C'est celui qui ne veut pas courir après l'esclave. Et vous voyez que dans le même temps, c'est ce qui définit l'hystérique comme c'est un sujet qui ne veut pas se prendre pour une femme. Ce qui montre que les obsessionnels et les hystériques chez Lacan ne sont pas fous, puisque l'expression de Lacan pour définir la folie, c'est se prendre pour. Et Klein emploie justement l'expression ils se prennent pas pour. Donc faut pas confondre les hystériques avec les hystériques fous, parce qu'ils ne sont pas tellement hystériques, les hystériques fous. Ne pas se prendre pour une femme, c'est l'expression que Lacan va reprendre dans Joyce le symptôme, justement dans le texte qu'il va introduire Joyce comme hystérique. Au lieu de tous ces crétins qui disent que Joyce est psychotique, là Lacan nous dit qu'il est hystérique, qu'il ne se prend pas pour une femme, il se prend pour le fils nécessaire comme Hamlet, il s'est identifié à Hamlet vis-à-vis de son père. Et donc il ne se prend pas pour une femme. Et il y a des hommes, comme le dira Lacan de Saint-Jean de la Croix, par exemple, qui sont aussi doués pour être des hystériques que les femmes. C'est vrai qu'il y a plus d'hystériques femmes parce que c'est plus souvent qu'on prend les femmes pour des femmes. Alors elles ont besoin d'affirmer que elles ne veulent pas se prendre pour une femme, vous comprenez? Donc ça se voit un peu plus. Il y a des mecs qui font des efforts pour qu'on essaye absolument de les identifier à des femmes. Oui, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le destin, c'est l'anatomie. Ça reste. Bon. Mais vous voyez que Lacan précise dans ce Joyce que Joyce, dans ce texte Joyce le symptôme, où il reprend ses définitions, tout ça, Lacan nous signale qu'il y a deux pages dans Finnegan's Wake où Joyce arrive à se tolérer comme femme. Donc il y aurait un petit quelque chose, comment je vais le dire, ben, peut-être de la psychose justement, peut-être que le sujet de la psychose, lui, regardez Schreber, il veut être la femme de Dieu pour sauver tout le monde. Vous voyez ? Donc peut-être que celui qui n'est pas hystérique, il a plutôt tendance à être psychotique, justement. Il faudrait dire qu'est-ce que c'est plus précisément. C'est vouloir être femme, à coûte que coûte, on pourrait dire. Parce que Schreber, hein, il se met dans un miroir, il gonfle sa poitrine, il se met des boucles d'oreilles, il dit oh, comme ça doit être beau d'être une femme et de subir l'accouplement. Chose qui m'étonne toujours parce que je me demande quelle idée il avait des femmes, justement, pour croire qu'elles subissent forcément. On pourrait peut-être poser la question. Bon. Donc, vous voyez, il y a toute une série comme ça de petits problèmes qui s'enchaînent et qui font que, moi, je constate, si vous voulez, nous sommes en 2009, je constate que Lacan est mort en 81. Hein, ça fait 29 ans, 28 ans. Hein. Et bien moi, je constate, alors c'est pour ça que je parle comme ça, je me demande quand est-ce qu'on va devenir pertinent de commencer à parler un peu sérieusement de ces questions, sérieusement sans se prendre au sérieux, en faisant des déconnages avec des ronds rouges, bleus et verts, hein, et puis des petits graffitis comme ça. Mais quand est-ce qu'on va parler un peu d'une manière un peu amusante, au lieu de se prendre, de faire des incantations, de parler comme des curés, au lieu de vendre la psychanalyse à l'État pour faire des psychothérapies? Moi, je vous promets, hein, quand j'ai fait une analyse avec Lacan, j'ai voulu faire mon analyse avec Lacan, eh ben, j'avais absolument pas l'idée de vouloir faire une formation de psychothérapeute. Moi, le psychothérapeute, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Moi, vous savez ce que j'ai remarqué? C'est qu'aux États-Unis, chez les analystes que j'ai visités à New York, ils ont tous plein de boîtes de Kleenex dans leur cabinet. Je trouve ça extraordinaire, moi. Moi, j'ai pas besoin de boîtes de Kleenex. Enfin, pourquoi ils ont tant de boîtes de Kleenex dans leur cabinet? Il y en a près du divan, près du fauteuil, sur la table, partout, ils ont des Kleenex. Alors, je sais pas, ils reçoivent peut-être que des fontaines. Moi, je pense que. Enfin, on ne parle pas de la même chose. C'est une plaisanterie. Je peux vous raconter une histoire pour vous dire en quoi je trouve que c'est une psychose sociale. Hein. C'est qu'on ne lit pas. Parce que je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui est venue me voir. Quand je dis que Freud, ce qui l'intéresse, c'est ce qui s'écrit et ce qui peut se lire. Et bien sûr, il y a une question de parler. D'abord, le transfert, c'est pour... On propose à un patient de parler, patient d'ailleurs, pas tant patient que ça, on propose à quelqu'un de parler dans la psychanalyse pour voir où il va se taire. Bon, voilà ce qu'il faut dire. Le sujet supposé savoir, on a quand fait la théorie du transfert, vous voyez bien que c'est bien une raison de se taire, de supposer que l'autre sait ce que vous allez lui dire. Non ? Écoutez, c'est ça le sujet supposé savoir. C'est si j'ai affaire à quelqu'un dont je suppose, et moi je vous promets que ça m'est arrivé avec Lacan transféré, je supposais qu'il savait tout, qu'il comprenait tout, c'est magnifique. Alors, vous voyez, j'aurais peut-être même pas eu besoin de lui dire grand-chose, j'avais juste à faire des petits signes comme ça pour qu'il comprenne tout. Non, mais ça, c'est du délire. Donc, l'analyse, c'est quand on commence, dans le transfert, à lire, à sortir du délire. Qu'est-ce que c'est que la psychose? Pour moi, cette psychose sociale, c'est acting out, ça s'appelle. Du transfert sans analyse. Il n'y a pas d'analyse sans transfert, ça s'appelle... Le transfert, c'est la psychanalyse, il n'y a pas d'analyse sans transfert, mais il existe du transfert sans analyse. Et ça s'appelle acting out. L'idée, c'est bien l'angoisse là-dessus. Une leçon sur acting out et passage à l'acte. Et cette absence de lecture qui caractérise la psychose, hein, ce refus de lire, eh bien, ça fait qu'on est dans le transfert. Moi, je vous dis que je vis depuis donc 28 ans dans le transfert instauré par Lacan. Hein, c'est-à-dire dans la psychose instaurée par Lacan. Alors il y a encore une difficulté à surmonter aussi. Nos grands thérapeutes, nos grands cliniciens, nos grands théoriciens, je ne sais pas comment on peut les appeler, ils disaient à l'époque, il n'y a pas de transfert dans l'analyse, dans la psychose, il n'y a pas de transfert possible avec les psychotiques, donc les psychotiques, on ne peut pas les traiter par l'analyse. Bon. Là, il faisait que reproduire ce que Lacan écrit dans les complexes familiaux. Hein. Dans les complexes familiaux, vous retournerez lire ça, c'est dès les années 30, Lacan s'oppose au fait que les gens disaient, comme il l'explique, qu'il y avait les névroses de transfert et les névroses familiales. Et que dans les névroses familiales, on ne pouvait pas les traiter par l'analyse. Il s'oppose à ça déjà, Lacan. Alors que dans les névroses de transfert, comme l'analyse c'est le transfert, on traite les névroses de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire? On se garde bien de préciser. Quand on dit ça, c'est pas simple, puisque l'analyse, c'est pas la régression, c'est pas le transfert, ça c'est ce qu'on a, c'est ce qu'il oppose même à Jung. Hein. Dans le début du texte sur le narcissisme, il dit, si on régresse, si le transfert c'est une névrose passée, alors cette névrose, de quoi, d'où elle vient, d'une autre névrose plus ancienne, c'est ça que je veux aborder moi, avec cette histoire de la négation et des deux principes. Hmm. C'est, qu'est-ce que c'est, d'un point de vue pratique, cette histoire de l'analyse du transfert? C'est la lecture. Hein. C'est pas la machine à remonter le temps, ça. On a cru ça. On a cru. Il y a des gens qui croient encore qu'ils vont apprendre quelque chose du transfert en regardant les enfants, en faisant de l'analyse d'enfants, parce que les enfants sont petits, alors ils seraient dans la marmite. Ben non, c'est complètement stupide. C'est même pour ça, à mon avis, qu'il y a un délire sur la pédophilie aujourd'hui. Parce qu'on reproche aux psychanalystes, à juste titre, pourquoi est-ce qu'eux, ils pourraient s'intéresser à la sexualité des petits-enfants et puis pas les autres? Comme aujourd'hui on est très démocratique, il faut que tout le monde s'intéresse à la même chose. Mais c'est comme ça qu'on fait les reality shows et les délires sur la pédophilie. Les reality shows, c'est vous pouvez être analyste dans votre fauteuil avec un contrôle pour zapper. Voyez, et vous allez avoir des jeunes gens qui vont vous raconter leur vie sexuelle, leurs troubles amoureux, comme ça, et vous allez pouvoir, dans un fauteuil, les écouter. Bon, tout ça, c'est du délire. C'est du délire parce qu'il n'y a pas de lecture de Freud, parce qu'il n'y a pas de lecture de Lacan. Bon. Et moi, tout ce que je dis, c'est qu'on peut toujours s'y mettre à n'importe quel moment, c'est tout. Maintenant, j'attends. À quel moment ça va devenir assez, suffisamment, assez visible que c'est une honte, que l'humanité que nous sommes, moderne, qui a des moyens technique extraordinaire, magnifique. Hein. Pour moi, il n'est pas question de moi, je considère que les progrès sont toujours biface. Ils ont des avantages et des inconvénients. Mais moi, je pense que j'ai connu dans ma vie un monde dans lequel il y avait eu Cantor, il y avait eu Frege, Peirce, Boulle, jusqu'à Godel. Et je pense que ces gens-là produisent des progrès effectifs. Et Freud, et Marx, l'écrire Le Capital, c'est un progrès. Il n'y a de progrès pour moi que littéral, et pas seulement mathématique. Je pense que Shakespeare, c'est un progrès. Bon, mais que c'est les seuls progrès qui existent. Et pour moi, aujourd'hui, le progrès, c'est Beckett. Hein, Beckett, c'est quelqu'un qui a découvert que, même dans Proust, même en faisant son commentaire de Proust, il s'est aperçu que nous vivions dans des poubelles, qu'il y avait du linge sale, qu'il y avait des cordes à linge et qu'il y avait des pinces à linge pour tenir le linge sale. Il disait Beckett, c'est la compassion, il n'y a que des gens tordus, des gens qui sont complètement achetés. Et je vous dis, moi j'ai écrit un texte dans lequel il y a plein de fautes d'orthographe d'ailleurs, qui est maintenant sur le site, qui s'appelle... Non, mais c'est parce que quelqu'un d'autre m'a proposé de me corriger mon faute d'orthographe. J'ai dit d'accord. Bon, mais si vous avez le courage de lire un texte plein de fautes d'orthographe en français, j'ai essayé quand même de faire marcher de la correction d'orthographe, hein, de l'ordinateur, mais il y en a plein qui sont passés à la... Alors, j'ai écrit un texte sur la phobie. Il s'appelle « Le territoire de la phobie », dans lequel... J'ai pas cité Beckett, mais tout mon texte qui vous parle des hooligans, qui vous parle de la drogue, qui vous parle de voyez-vous, du territoire, de la phobie, de la libido, et des rituels de famille, et de la façon dont on élève les enfants, et dont c'est la terreur. Moi, j'ai parlé du territoire de la phobie, qui est le territoire de la terreur. Comment est-ce que, justement, c'est ça qu'il va falloir aborder. Qu'est-ce que c'est que les cauchemars? Il y a les rêves, n'est-ce pas? Et les cauchemars seraient censés invalider la théorie des rêves de Freud. On va voir que, pas tellement, hein, mais c'est vrai qu'elle oblige à apporter de la précision. Et tout ça a été enlisé. Hein, parce que, moi je suis pas terrorisé du tout, je me laisse pas terroriser, ni par mes enfants, ni par ma mère, ni par ma femme, ni par ma sœur, ni par... Bon, je suis en train de parler des dames, là. Mais parce qu'elles ont un certain rôle dans la maison. Mais il y a aussi des mecs qui veulent. Moi, je ne me suis pas laissé terroriser ni par le meunier, ni par l'enfariné. Ni, bon, qu'on soit de la poudre ou du canon, ça me fait pas d'effet. Bon. C'est pas négociable, vous voyez. Et c'est ça le pari de Pascal. Alors, ça, en quoi Pascal aurait-il instauré une psychose sociale avant Lacan? Pascal, rappelez-vous, le jansénisme, c'est des gens qui disent surtout ne faites pas. Surtout, ne commencez pas cette histoire de calvinisme. Et vous avez peut-être lu le livre de Max Weber sur l'éthique protestante et la montée et le capitalisme, l'instauration du capitalisme. C'est ça le lien qu'il y a dans Pascal. C'est que Pascal, c'est quelqu'un qui dit, alors c'est quand même incroyable, vous savez, qu'est-ce qu'il dit Pascal? Il dit, retournons à la religion de Saint-Augustin. On est dedans. Bon, Saint-Augustin, c'est vachement visible, hein. Il faut lire Saint-Augustin, il faut lire. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que la jalousie d'un enfant devant le saint, vous avez besoin de ce petit schéma pour lire Saint-Augustin. Comment un enfant, voyant un petit frère qui est en train de boulotter le sein de sa mère, lui, le môme, il croit que le sein, c'est une partie de lui. C'est pour ça qu'il est hyper, il est blême de jalousie. C'est pas du narcissisme comme ça, vous voyez, ce dont il est question dans la violence. Il faudrait qu'on parle bien de ces choses-là. C'est comme le Forda, vous voyez, là on va en parler du Forda, puisque ça fait partie de au-delà du principe du plaisir, dès les premières leçons. Donc qu'est-ce que c'est l'enfant que décrit Saint-Augustin? C'est ça, c'est que Lacan fait remarquer que les seins de la mère, c'est un objet, c'est pas le placenta qui est coupé du corps, mais c'est une partie, n'est-ce pas, qui fait partie du corps de l'enfant, parce que les seins, c'est des objets phanérogames, Lacan. C'est des phanères. Ce sont comme des médailles, c'est des choses posées sur le corps, n'est-ce pas ? Et que l'enfant, il a toujours considéré, voilà, comment faire une clinique sérieuse de l'anorexie et de l'addiction en général, hein, sans tenir compte du fait que l'objet du sevrage, c'est pas ce qu'on croit. La petite fille ou le petit garçon, il n'est pas malheureux parce qu'on l'a sevré, parce qu'on l'a séparé du sein de la mère, hein. Mais c'est pas, mais à condition que ce sein, même s'il se détache, hein, parce que c'est aussi vrai du pénis. Regarde le petit homme, s'il attend que le plombier il vienne et puis qu'il le démonte. Hein. Bon. Donc c'est pas le fait que ce soit sécable. Le problème, c'est de savoir justement, est-ce que quelqu'un d'autre va le prendre? La partie de l'objet qui s'est détaché de moi, hein, et qui n'était sûrement pas quelque chose qui appartient à la mère. Il y aurait, si on parlait bien du placenta et du sein, il y aurait beaucoup moins de psychose infantile. Lacan dit ça dans la conclusion du colloque organisé par Maud Manoni, qui est dans les autres écrits, hein, le discours de Lacan. Hein? Donc, vous voyez, cette histoire de l'objet, par exemple, c'est extrêmement important. Et donc, moi, je pense qu'il y a, il y a toute une série comme ça de problèmes qui n'ont pas été traités. Et ma proposition, elle est de vous dire. Ça n'a pas été traité pour. Il y a des raisons historiques. Il y a ce colloque dont je vous ai parlé la semaine dernière, hein, en 64, au moment où Lacan fait le séminaire sur les quatre concepts, et il écrit Position de l'inconscient, où on trouve dans le texte cette chose-là, vous avez les professeurs de philosophie qui font Nietzsche, l'éternel retour. Et 4 ans après, vous avez Deleuze qui fait Différence et répétition. Moi, je trouve Deleuze. J'aime Deleuze comme écrivain. Pour moi, Deleuze, c'est Faulkner. C'est un mec qui s'envoie en l'air en écrivant. Bon, je trouve que c'est magnifique. C'est même, ça peut même être progressif. Ça peut aussi être réacte. Hein, parce que l'ennui que j'ai découvert récemment en lisant Milner dans l'arrogance du présent, Milner fait cette remarque, je vais conclure là-dessus, que Maurras a dit que la langue française, c'est la belle langue. C'est la langue avec laquelle on écrit. Deleuze, il écrit magnifiquement, et c'est un plaisir de lire Deleuze. Ça n'a aucun sens, ce que raconte Deleuze. Ça n'a strictement aucun sens. Mais c'est pas pour ça que c'est pas même progressiste. Pourquoi pas? Ça peut aussi devenir réactionnaire. Hein. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il paraîtrait que Maurras, alors c'est peut-être pour ça que Lacan, il a inventé cette nouvelle mathématique qu'il essaye, l'idée auquel il va falloir vous habituer. Ces petits calculs de boules avec le plus qui est une soustraction. Hein. Pourquoi? Parce que Maurras, il aurait dit que la dialectique hegelienne, la dialectique allemande, la France ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas laisser ça passer. Donc c'est vrai pour Einstein, c'est vrai pour Marx, c'est vrai pour Freud. Hein. En France, on ne peut pas laisser rentrer ça. Pourquoi ? Parce que, hein, Maurras, vous savez qui c'est ? Maurras, c'était l'Action française. Hein. Parce que nous serions le pays de la langue qui est tellement jolie, vous comprenez ? Bon, c'est pas une raison de ne pas lire Peggy. Lisez Peggy. Bon, on lisait Proust, mais Beckett, lui, il a lu dans Proust que c'était quand même qu'on pouvait y mettre des peaux de banane, hein, des saloperies, quoi, dans cette belle langue. Et c'est déjà vachement bien. Bon, lui, il a écrit en français. Donc, le point, il est que Lacan, peut-être, c'est pas pour rien qu'il a été pas loin d'ici, il a été à Stanislas, il a été élevé chez les jésuites, et Ogilvy dit qu'il a été maurassien. Bon, pourquoi est-ce que Lacan, justement, le fait d'avoir été maurassien dans sa jeunesse, hein, ça lui aurait permis de penser plus que les autres qu'il fallait sortir de cette belle langue ou y faire rentrer Freud, la psychanalyse, vous voyez. Et bien, c'est une chose qui n'est pas encore faite. Lacan l'a fait rentrer maintenant. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on veut faire quelque chose avec ça ou pas. Et vous voyez, la situation actuelle, c'est que tout le monde est intellectuellement défait. C'est blanc bonnet blanc. Moi, je trouve ça détestable, cette situation politique. C'est le rouge et le vert, ça donne même pas du bleu quand ça se superpose. Et tout est de la même couleur, ça va pas. C'est pas vrai. C'est très très bien les oppositions. Allez, j'arrête. Alors la semaine prochaine, on commencera par discuter si vous voulez lire le texte ou regardez le texte, je serais assez content.